Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous invite à quoi?
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club épisode 306. Aujourd'hui on va faire une discussion globale sur plusieurs sujets. On va parler de Benoît Saint-Denis qui devrait affronter Paddy Pimblett. On va parler aussi de la nouvelle vie qui s'annonce pour Saladin Parnasse qui a quitté officiellement le KSW. Et puis on va faire un petit preview en fin d'épisode sur l'événement UFC, la Fight Night entre De La Maddalena et Prates. Et pour parler de tout ça, évidemment, j'ai le plaisir d'accueillir le pilier du RMC Fighter Club. Baba, salut Baba.
Salut Charles.
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, tu reviens de vacances?
Ouais.
C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière.
Exactement.
T'étais pas là, donc voilà, on a gardé tous ces sujets de discussion pour aujourd'hui.
Ouais.
C'était bien les vacances?
C'était super, très bien mangé, à Rome.
Ah bah forcément, forcément.
Ouais.
Bah, t'as eu beau temps, t'as beaucoup marché, t'as fait les vacances classiques.
Voilà. Mon genou il fait trois fois son volume, mais je suis quand même très heureux. Mes genoux aussi, je crois qu'il faut trop.
C'est bien, au moins ça permet d'éliminer un petit peu tout ce que tu manges.
Ouais.
C'est bien de marcher 15-20 km par jour. C'est quoi le meilleur plat que t'aies mangé là-bas?
Le meilleur plat que j'ai mangé, franchement, c'est. Je suis pas du tout original, mais une pizza.
Ah, t'es plus pizza que pâte.
Il y a une vraie bonne pizza.
Ouais. T'es plus pizza que pâte quand t'es...
Non, normalement, je suis plus pâte, mais franchement, il y a eu une pizza.
Ouais.
Elle était exceptionnelle.
Et ils mangent beaucoup, les Italiens.
Ils mangent
de fou. Hein.
Et ils mangent très bien.
Ils mangent très bien, et même quand t'es pas à côté de touristes, etc., tu vois, des couples italiens.
Non,
mais comment les primi pièces,
c'est un truc de fou.
Hein.
J'ai mangé environ 180 supplés, donc voilà.
Ouais, c'est bien, mais c'est bien. T'as profité, ça fait partie du charme local et du tourisme local. Dernière question, laquelle ville est la plus belle entre Paris et Rome?
Paris.
Paris, ça reste.
Paris, ça changera jamais.
Ouais,
en fait, c'était peut-être la dernière d'ailleurs où je pouvais me dire, on me disait, tu verras, c'est super beau, c'est extrêmement beau,
ouais.
Mais on n'est pas challengeable.
Pour moi, c'est la seule où il y a match, de ce que j'ai vu. Hein, j'ai pas vu toutes les villes du monde, mais de ce que j'ai vu, Rome, challengeable, mais c'est vrai que Paris, c'est magnifique.
On reste devant.
Bon, voilà, bah, c'était la petite intro en tout cas. On espère que potentiellement. À l'UFC de Las Vegas, bah, la ville de Paris rayonnera par rapport à l'Angleterre, puisque normalement Benoît Saint-Denis devrait affronter Paddy Pimblett. C'est parti pour le RMC Fighter Club. Bon bah je suis content qu'on aborde tous ces sujets ensemble, du coup, parce que c'est vrai que c'est tombé pile pendant les vacances, donc on n'a pas pu le faire, mais c'est pas encore officiel de chez officiel.
Non, mais bon.
Benoît Saint-Denis, Paddy Pimblett, c'est dans les starting blocks depuis un petit moment.
Ouais.
En tout cas, ça s'est bien confirmé avec cette vidéo qu'a publiée Benoît Saint-Denis, où allez la voir, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir encore, c'est assez marrant, où il regarde une carte de restaurant, et puis il y a des plats, il y a des burgers qui correspondent à ses anciens adversaires, Dariush et compagnie, et là il y a un petit plat avec un roast beef, et ça fait forcément, ça sous-entend que potentiellement c'est un Anglais qui arriverait dans le viseur
de Benoît,
BSD, et du coup l'Anglais qui pourrait être dans le viseur de Benoît, il s'appelle Paddy Pimblett.
C'est pas Thomas Spinal, donc forcément.
Non, c'est pas Thomas Spinal, je pense. Donc on se dirige vers un Benoît Saint-Denis, Paddy Pimblett, à l'International Fight Week, le 10 ou 11 juillet, en fonction de si on est aux États-Unis, en France, etc. C'est un match-up qui pouvait être logique. On s'attendait plutôt, sincèrement, dans l'ensemble, à Holloway, Oliveira. C'était les discussions qui étaient...
Ça venait après, vers la fin, mais c'est vrai que moi, Pimblett, c'est un match-up qui m'a toujours plu. J'en avais parlé dans quelques émissions qu'on avait faites et dans certains plateaux UFC numérotés. Moi, en tout cas, personnellement, je suis très content de ce combat, même si c'est un combattant qui est derrière lui. C'est une des plus grandes stars actuelles de l'organisation, tout simplement. Donc, affronter une grande star de l'organisation, ça va permettre à Benoît de monter encore plus son profil et pourquoi pas de prendre justement sa lumière et de lui devenir la star à sa place. Ouais.
Ouais, Benoît, 5e chez les moins de 70 kilos, Paddy Pimblett, 6e chez les moins de 70 kilos. Et avec donc Paddy Pimblett qui reste sur une défaite contre Justin Gaethje et donc qui est pour l'instant sur une série plutôt négative puisqu'il a perdu son dernier combat, là où Benoît, lui, est sur une série plus que positive avec tous ces derniers fights. Est-ce que tu trouves ça bien aussi que ce soit sur cette carte-là de l'UFC 329? Les trois gros événements qui arrivent sont vraiment énormes à l'UFC, hein, parce que là il va y avoir Chimaev contre Strickland qui est énorme au 328, il y a la Maison Blanche qui est mi-juin et donc début juillet il y a cette carte où on pourrait attendre aussi Conor McGregor. On sait pas encore ce qui va se passer, mais on attendrait Conor McGregor sur cette carte là donc ce serait vraiment un événement qui serait assez fou. Est-ce que tu es satisfait que le Pimblett BSD soit sur cette carte-là. On aurait pu dire qu'une ambiance à Londres ou à Paris, ça aurait été exceptionnel aussi.
Ouais,
c'est mais c'est rendre justice au match-up que c'est que de mettre ce combat-là sur une carte principale d'un très gros numéroté.
Ouais, franchement, ouais. Franchement, c'est cool. Si t'es un peu égoïste et que tu penses Europe, oui, clairement, tu le veux en France ou tu le veux à Londres et c'est la folie et tu sais ce qui se passe. Mais ça va être la folie à l'International Fight Week. À Vegas, c'est le plus gros événement de l'année. La Maison Blanche, évidemment, c'est un événement qui est à part, qui va être exceptionnel a priori. Moi, j'attends toujours de voir. On verra bien parce qu'on nous parle de beaucoup de choses, de spectacles, qu'ils ont prévu des choses. Écoute, on verra. Je demande à voir. En attendant, l'International Fight Week, c'est un rendez-vous sûr annuel avec une semaine pour les fans, construite comme ça, avec cet événement qui arrive en point d'orgue. Et ce sera très intéressant. Il y aura aussi d'ailleurs, il y a du Power Slap, mais on n'en parle jamais, et à juste titre. Ouais. Mais il y aura également un event Zuffa Boxing. Donc ils ont vraiment fait les choses en grand. Et j'entends, j'ai des petits chuchotements que l'événement Zuffa Boxing aussi, ça devrait être intéressant en termes de match-up. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc moi je suis content pour Benoît parce qu'il mérite ce genre d'exposition. Il mérite d'être sur cet event-là. Ça sera main card bien évidemment. Ça devrait être, à mon avis, si c'est pas co-main, c'est
co-main. Ouais, c'est ça. Mais alors après, qu'est-ce qu'ils font? Parce que s'il y a Connor, il n'y aura pas de ceinture.
Ouais.
Et du coup, ils mettront Connor sans ça et ils vont essayer de mettre une ceinture. Donc, à mon avis, s'il y a Connor, ils sont obligés de le mettre en main, même s'il y a une ceinture, je pense.
Ouais.
Donc, du coup, co-main, il devrait mettre une ceinture, je ne sais pas laquelle.
Tu la vois venir, la BMF pour Connor, si jamais il est là.
Ouais. Je crois que. Ah ouais.
Bah écoute, de toute façon, cette ceinture, c'est tellement
dans Et donc, contre Oliver, alors. Toi, tu vois Connor Oliver?
Bah, je ne sais pas, peut-être ça parlait, en tout cas, les deux. Connor, il avait un petit peu tourné son attention vers lui. Je ne sais pas. Je me dis que. J'utilise la logique que tu viens d'utiliser, c'est très difficile de ne pas mettre Connor en main event. L'UFC a beaucoup de mal à abandonner ses logiques de mettre des ceintures, même si elles sont un petit peu en chocolat. Donc, je sais pas, j'ai réfléchi ce week-end et je me disais, ils sont shameless en ce moment. Ils sont un petit peu sans honte, ils font un peu ce qu'ils veulent, donc pourquoi pas? Pourquoi ils hésiteraient à faire ça? Bon, écoute, peut-être que je spécule un petit peu pour rien, mais... On verra.
Elle te plairait cette ceinture BMF Oliveira contre Connor ou tu... Est-ce que le match-up te plaît?
Ou le match-up, oui, pourquoi pas. Le match-up, ouais.
Après le storytelling autour de la BMF, ça te saoule.
Le match-up, pourquoi pas. La BMF, je m'en fous un peu. Le match-up, pourquoi pas. Maintenant, Oliveira 2.0, il vient plus pour rigoler, il vient plus pour donner des combats à son adversaire, en tout cas rentrer dans les avantages de son adversaire. Donc ça peut être Connor qui se fait laver au sol pendant. Par contre, je vois pas tenir 5 rounds comme Holloway l'a fait. Jamais ça.
De toute façon, on a tellement peu de données sur Connor là que c'est très très dur de pouvoir anticiper ce qu'il pourrait faire, surtout sur une distance aussi longue. Donc la carte qui est en train de se construire, je regardais un petit peu tout à l'heure, il y a quand même des choses qui sont un petit peu annoncées déjà, mais je crois que normalement on aura Gable Stevenson qui sera là
dessus,
on sait pas encore contre qui. Ça c'est un bel apport à la carte aussi.
Exactement.
Toi t'avais bien insisté sur le fait que saison officialisée, c'était à l'UFC 327, Stevenson qui était à côté de John Jones d'ailleurs dans la salle de l'UFC 327 à Miami, et donc ça c'est sympa de l'avoir. Il devrait être en main card aussi parce que c'est un très gros apport à l'UFC.
Il sera main card, c'est sûr, et je serais même pas surpris qu'on lui donne d'emblée un top 15, un mec en fin de top 15 directement, tu vois, parce qu'ils vont pas rigoler avec lui, ils vont l'accélérer le plus possible. Ouais. Ils sont très contents de le signer, ils sont un peu fatigués à ce qui se passe au sommet des poids lourds. Ils veulent du renouveau. Il y a un Américain qui arrive qui est promis à la ceinture, donc lui, attendez-vous à ce que si ça se passe bien et combattre pour le titre au gros maximum début 2027, hein, ça va aller vite.
Ouais, Gable Stevenson sur la carte, Leon Edwards contre Daniel Rodriguez, Corey Sandhagen contre Mario Bautista, César Almeida contre Damien Pinas. C'est pour l'instant, de ce que je vois, ce qui est officiel.
Ouais.
Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver, y compris les plus gros combats. Et là, pour l'instant, sur les sortes de communication un peu officielles, la page Wikipédia est assez juste. Normalement, la page américaine, elle est bien sur les pages américaines. Ça reflète pas mal ce qui a été annoncé, ce qui est officialisé. Il n'y a pas encore de Benoît Saint-Denis contre Paddy Pimblett. Donc, on l'a dit, hein, Benoît Saint-Denis, Paddy Pimblett, certainement au milieu de carte ou alors en co-main event. Ça mériterait un co-main event.
Ça mérite un co-main, sauf pour moi.
Ouais. Est-ce que le fait que Benoît Saint-Denis prenne un mec qui est certes en dessous de lui, mais comme tu l'as dit, peut-être l'une des plus grosses stars actuelles à l'UFC, c'est quand même une grosse marque de respect de la part de l'UFC. Est-ce que tu penses que tous les mecs qui gravitaient autour d'eux, qui sont avant lui ou Paddy, c'est du respect, tout ce qui était derrière lui, ça aurait été un petit manque de respect pour Benoît?
Ouais, complètement. Il ne fallait pas aller plus loin que Pimblett en termes de classement. Il a mérité d'affronter soit un gars qui est classé devant lui, soit quelqu'un qui fait quelque chose pour sa renommée, pour son portefeuille, pour tout le côté business. Pimblett remplit toutes ces cases-là. Et donc c'était important d'avoir au minimum, si ce n'était pas pas devant, c'était minimum Pimblett. Après le reste, enfin maximum, pardon, Pimblett. Le reste, fallait pas les regarder. Et puis, quand tu regardes la chose dans son ensemble, je trouve que oui, je trouve que c'est du respect parce qu'il le voulait sur la Maison Blanche. Ça s'est pas fait. On a compris que c'était pas l'adversaire qui était intéressant. Il voulait pas Chandler, Benoît, parce qu'il veut pas reculer à ce point-là. Il a largement dépassé Chandler. Beaucoup, dont notre collègue et poteau Thomas Desson, pensaient qu'il pourrait prendre le combat pour aller exploser Chandler et ensuite passer à autre chose. Ouais, moi je pense que c'est plutôt intéressant de ne pas avoir pris ce combat-là et d'aller chercher tout de suite un combat bien plus intéressant pour lui, qui coche toutes les cases de notoriété, de match-up, parce que Pimblett est dangereux et ça va faire une grosse guerre. Ouais. Et puis d'oseille, parce que je pense que ça devrait être bien.
Ouais, et puis après, on sait comment fonctionne l'UFC. Il y a toujours un peu ce côté, le coup près qui peut tomber. Si jamais tu dis non à l'UFC à quelque chose, surtout quelque chose de gros comme ça, moi j'avais un peu peur de ça. Hein, tu vois, en se disant que justement, il avait dit non à Chandler parce que physiquement, il n'était pas encore au point pour pouvoir prendre le combat. Je pense que c'était potentiellement un risque de dire attends, tu me dis non à combattre devant Donald Trump à la Maison Blanche devant un champion américain que tout le monde connaît, c'est ok, bah, tu vas voir. Et finalement, même pas un mois après, il va combattre normalement à Vegas sur une très grosse carte et contre un très gros combattant.
Bah, moi, j'ai deux choses.
Pas de sanctions.
Non, bah, écoute, tu peux en avoir peur par rapport à l'historique de l'UFC. Maintenant, j'ai deux choses qui sont venues me rassurer sur ce point, entre guillemets. C'est un peu ce qu'on entend partout. La première, c'est le management. Je pense que ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, ce serait bien, mais bon, on l'appellera un peu plus tard, mais ce serait bien un jour d'en parler avec Guillaume en plateau, s'il est de passage en France, de l'avoir ici pour pouvoir discuter de tout ça et comment lui, il a approché la chose. Mais je trouvais qu'il était confiant dans le process. Et l'historique montre qu'il a bien géré, en tout cas, la carrière de Benoît Saint-Denis. Très clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc sur ça, moi, j'étais plutôt confiant. Ça veut dire que lui, businessment parlant, ça se passe bien avec les matchmakers de l'UFC. Et ce n'est pas facile pour tout le monde. La deuxième, c'est plus quelqu'un qui bosse avec eux, mais qui n'est pas impliqué directement là-dedans. C'est en écoutant les épisodes de Jab Life. Et d'ailleurs, bon anniversaire à Jab Life, parce que ça fait un an. Donc bon anniversaire à Herbie et à toute l'équipe. C'est Aldric qui évoquait récemment le fait qu'il y a pas mal de noms en coulisses, qu'il y a pas mal de combattants qui disent non. Ces temps-ci, qui refuse des combats. Et visiblement, c'est moins sanctionné qu'avant. Donc, je me dis que ouais, peut-être que les négociations avec le fait que Paramount soit arrivé, que les contrats avec pay-per-view, avec les points pay-per-view qui sont inclus dedans, deviennent un peu caduques. Et donc, on ne sait pas trop où on en est actuellement, comment ça négocie. J'ai l'impression que ça a ouvert une petite porte de négociation pour les combattants et pour les managers et que certains arrivent à s'y engouffrer. Et c'est tant mieux.
De toute façon, après, c'est vrai que quand on regarde, on peut en parler aussi pour Farziam, par exemple, qui est rentré top 15. On s'attendait à ce qu'il prenne un mec qui était entre la 10 et la 14e place. Finalement, il prend un mec qui est très très loin, qui est même pas. Tu vois, on parle souvent des mecs qui sont entre la 15e et la 30e place, qui sont pas officiellement rankés, mais qui sont les morts de faim, qui sont prêts à rentrer. Finalement, il prend un mec qui est encore au-delà
de ça.
Voilà, donc c'est, parfois, il y a des choses assez incompréhensibles. Quand tu regardes le classement des moins de 70, pour Benoît Saint-Denis, il n'y a pas d'Ipimlet qui est 6, derrière c'est Gamrot qui est 7 et Danouker, Renato Moicano qui sont 8-9. On n'envisageait pas ça pour Benoît Saint-Denis.
Non, pas du tout.
Alors Moicano, il y aura toujours un storytelling puisque c'est une revanche, etc. Mais bon, Gamrot, j'aurais eu du mal à envisager que là, maintenant, Benoît accepte de prendre Gamrot.
C'est trop tard.
C'était pour Benoît, c'était une aubaine de prendre Gamrot il y a un an et demi. Mais maintenant,
c'est trop tard, c'est trop
maintenant
tard.
Ça sert à rien.
Bah non,
pour lui.
En plus, Gamrot, il est occupé à call-out des combattants qui ne sont même pas dans sa catégorie.
Le pire call-outeur de.
Vraiment. On va croire que machin.
De l'histoire moderne.
Je l'aime bien, Gamrot, vraiment. Mais c'est pour ça que ça me frustre. Ouais. Mais non, c'était inenvisageable. Et voilà. Donc, c'est dommage pour Fares parce que tu l'évoques. Clairement, moi, je suis. Fares, c'est le smile killer. Donc, il va toujours te dire avec un sourire qu'il faut s'adapter et qu'il faut travailler. Et lui, il va toujours être dans l'optique de montrer de toute façon qu'il progresse et qu'il va prendre n'importe qui. Mmh. Et donc, ça mettra son crédit à Fares. Maintenant, oui, moi, je ne peux pas m'empêcher. Le fan et l'analyste en moi ne peut pas s'empêcher d'être déçu parce qu'on veut, on a de l'ambition pour lui. Il a construit sa carrière. Il mérite clairement d'avoir un combattant qui est classé au-dessus. Donc, c'est un peu frustrant, c'est un peu énervant. Donc, on voit que de son côté, Benoît, lui et son management, en tout cas, clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et tu prends un mec qui est classé juste en bas de toi, mais vous êtes les deux leaders de cette nouvelle génération qui affrontent ces gars-là qui sont établis dans le classement depuis si longtemps. Et d'ailleurs, Benoît en a battu un, puisqu'il a battu Danouker. Pimblett.
Ça a bloqué. C'est vrai que ces deux noms-là, bon, il y a Tsaroukian, mais Tsaroukian, c'est toujours un cas tellement particulier dans ce classement, c'est compliqué. Il fait tellement de trucs, Tsaroukian, là. Il fait un nombre de vidéos, mais c'est
hallucinant.
Je l'ai vu chez Ibra TV encore l'autre jour faire un jeu. Enfin, il fait un nombre de trucs, entre ses vidéos pour ses réseaux à lui, où il bouffe tout le temps, où il est, je sais pas, à droite à gauche. Mais je comprends pas où il est et quand il est. Je pense qu'il est intraçable. Je pense que même le FBI, il peut pas savoir où est Tsaroukian au moment où il le cherche.
Il a des problèmes dans des avions de ligne. Il descend, il prend un jet privé. Donc, voilà.
Sa vie actuelle, elle est assez folle. Donc, c'est un cas vraiment particulier. Mais c'est vrai que sinon, Benoît et Paddy Pimblett sont les deux représentants de la nouvelle génération qui monte face à des Oliveira, face à des Gueye, évidemment. Bon, il y a qui est en haut aussi, qu'on met dans ce sac aussi de la nouvelle génération. Mais c'est vrai que ce sont des bons représentants. Et au moins, c'est aussi rassurant de voir que ces deux mecs-là, ils les font s'affronter.
Ouais,
ce truc frustrant qu'on a de se dire, parfois, les mecs qui doivent s'affronter ne s'affrontent pas.
Ouais.
Là, c'est un combat à faire. C'est un combat avec qui il y en a un qui va gagner beaucoup, l'autre qui va perdre beaucoup.
Ouais.
Mais au moins le match-up est intéressant à ce niveau-là, c'est que les combats qui doivent se faire se font peut-être de plus en plus à l'UFC.
Ouais, il faut les faire et j'avais peur que ça se fasse pas entre guillemets. Maintenant j'aurais compris si Benoît il avait l'opportunité de faire Max Holloway ou Armand Tsaroukian évidemment tu le fais, ou Oliveira même, tu le fais, il n'y a rien à dire, personne n'a rien à dire. Ouais. Mais voilà, je suis content que ça se fasse, c'est un peu une finale entre les deux représentants là, de cette génération-là. Maintenant, je les avais un peu opposés aussi dans le dernier film RMC sur Pimblett Hooker. Pimblett Gueye. J'avais un peu dit à la fin du film que voilà, que si Pimblett perdait, derrière il y avait toute une meute de poursuivants qui allaient lui dire: mon gars, c'est sympa, t'as été accéléré, nous on a galéré pour arriver là, toi t'as accéléré, ben maintenant on va venir te chercher. Et BSD, c'est un petit peu de dire voilà, maintenant voilà, on t'a donné un ascenseur, moi j'ai dû prendre un petit escalier, même si j'avais été accéléré une première fois face à Poirier. Maintenant on va s'affronter, on va voir c'est qui le meilleur. Et comme ça ensuite on va pouvoir aller chercher les mecs qui sont au top.
C'est là où on voit quand même les deux dernières années de Benoît qui sont folles, parce que il y a encore peu de temps, Pimblett il voulait même pas prononcer le nom de BSD.
Ouais.
Enfin c'était genre okay, parlez-moi des gars qui vraiment parlez-moi de trucs crédibles. Je suis pas dit Pimblett, j'ai une grosse notoriété, je suis une grosse star, je peux demander beaucoup de choses. Et là maintenant il se retrouve à l'affronter et le match-up sera pas forcément favorable à Paddy Pimblett. Comment tu vois d'ailleurs cette opposition technique entre Pimblett et BSD si ça se confirme bien?
C'est des combattants qui sont tous les deux très compétents au sol, ça c'est clair. BSD l'a un peu plus montré que Pimblett dans ses derniers combats en tout cas, surtout à fort enjeu. Debout, Benoît est meilleur. C'est juste que Pimblett c'est un gros bagarreur et il a montré qu'il était capable d'encaisser les plus grosses frappes possibles, et ce sur 5 reprises, donc ça va être dur de le descendre. Donc c'est un combat qui est équilibré, mais je vois quand même Benoît légèrement moi devant. Je le vois quand même légèrement meilleur. Je l'ai toujours vu, en tout cas à titre perso, légèrement meilleur. Maintenant Pimblett peut nous faire mentir. Factuellement, je reviens là-dessus. Tu peux penser ce que tu veux de Dan Hooker, c'est un combattant qui s'est hissé dans le top 6, top 5 et qui est dans le top 15 depuis des siècles, donc c'est un combattant d'élite et il l'a passé. Benoît l'a passé, il a passé Dariush aussi, qui est un combattant qui avait une des plus grosses séries de victoires dans cette catégorie de poids. Pimblett, qu'est-ce qu'il a affronté? Chandler, on va dire, qui serait considéré comme un combattant d'élite.
King Green
qui a flirté avec, mais qui a toujours perdu contre l'élite.
Il n'a pas battu de mec,
non.
Puisqu'il a affronté Gueye.
Benoît, il a prouvé sa place.
Ouais.
À mon sens, Benoît, il a prouvé avec plusieurs victoires qu'il était là, pas par hasard. Pimblett, c'est un combattant qui est très fort, mais qui s'est cogné au premier adversaire d'élite qu'il a affronté.
Ouais.
Tu vois ?
Mais t'estimes que Pimblett, il avait été monté trop vite, trop haut, ou... Parce que moi, je trouvais qu'on était un peu dur avec Pimblett quand on disait « Non, mais il ne mérite pas, il n'a pas... » C'est vrai qu'il n'avait pas battu des énormes noms. Alors, Michael Chandler, c'est un très gros nom, mais c'est un mec qui était un peu sur la... Qui est sur la fin.
Pour rappel, Michael Chandler a le même âge que moi.
Ouais.
Moi, j'aime bien mettre ça en
comme
perspective.
Vieux.
42 ans.
Non, il a 40, non ? 42, il a ?
Ouais, il me semble qu'il est en 84, peut-être 85. Mais
je vais te dire tout de suite,
ouais. Sensiblement du même âge, quoi.
Il a eu 40. Je me disais, parce que j'ai vu une vidéo passer l'autre jour, il a eu 40 le 24 avril.
Tu me parles de poids lourd, je veux bien, mais en lightweight, 40 ans, mon gars, c'est dur.
Mais Chandler, il te dit, moi, on me parle pas d'âge, Baba.
Mais moi, je vais te parler d'âge. Si je te montre tes anciens résultats, Michael, enfin tes résultats récents, pardon, je vais te parler d'âge, clairement.
Ouais,
parce que Michael, dans son prime, mais c'était quelque chose. Hein. Allez regarder ses combats au Bellator, ses guerres contre Eddie Alvarez notamment, contre Primus, etc. C'était un super combattant. Mmh. Mais c'est un combattant qui a toujours été très athlétique. Et tout est basé sur sa capacité athlétique. Dès l'instant où tu la perds pour un combattant comme lui, c'est compliqué. Mmh. Il est toujours beaucoup plus athlétique que le commun des mortels, c'est n'importe quoi, d'avoir corps-là et tout à son âge. Mais pour les combattants, non, là c'est dur, là ça devient dur pour lui.
Ce que je disais, tu vois, quand je regarde ce qu'a fait Paddy Pimblett, c'est que mine de rien, avant Justin Gaethje, il était invaincu à l'UFC et qu'il avait battu. Bon, on n'a pas parlé de Tony Ferguson, mais pareil, faut mettre de manière très très. Enfin voilà, je sais pas si c'est peut-être la dernière défaite de Tony Ferguson. Je sais pas s'il a recombattu après en MMA, je suis pas sûr. Mais bon, voilà, c'était un truc de 7-8 défaites d'affilée. Bah là, je vais te dire parce que je suis dessus du coup, mais il a 42, voilà. C'est bon. Tu vois. 84, 12 février, il est plus vieux que toi ou pas?
Un mois.
Voilà. Voilà, mais je pense qu'en ressenti, Tony doit en avoir un peu plus. Grosse carrière, et forcément, les derniers combats sont un peu moins à prendre en considération. Mais voilà, il avait quand même réussi à faire des vraies choses pour moi, Paddy Pimblett. Peut-être que ça ne méritait pas, voilà, l'enchaînement Ferguson, Green, Chandler, ça ne valait peut-être pas de le faire entrer top 5 et de lui donner ce gros défi.
Une chose pour le titre intérim. Ouais. C'est là où c'est dur pour moi.
C'est là. Ouais.
Tu vois, c'est là où c'est ça dur.
Rentrer top 10 avec ça, je te le mets normal. Pas de souci.
Normal.
Par contre, top 5 et Interim Champion, c'est un peu forcé.
Là, c'est un peu dur. Appelez ça du chauvinisme si vous voulez, mais si tu devais donner une ceinture intérim dans ce cas-là à un gars qui montait, bah tu la donnes à Benoît qui avait peut-être un petit peu plus prouvé à ce moment-là. Ouais, tu vois. Ça, c'est la première chose, ou à d'autres combattants. Mmh. La deuxième chose, bah de toute façon, c'est clair, hein, si c'était pas l'histoire de Tsarukyan, je sais pas quoi, il y avait pas à discuter, c'était Tsarukyan qui disputait la ceinture contre un des gars. Maintenant, le truc, c'est que tes arguments, je les entends et je les comprends, c'est-à-dire que en fait, Paddy Pimblett, quand tu le regardes, tu sais que c'est un combattant d'élite. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un excellent combattant qui, a priori, pour les 3-4 prochaines années, s'il continue sa carrière, il va rester là. Il va rester là où il est, normalement. Tu vois. Mmh. C'est juste qu'après, il fallait de la cohérence, entre guillemets. On a cherché à le pousser. Et tant mieux, je comprends, c'est une star. Donc, on lui a donné les match-ups qu'il fallait pour qu'on puisse le mettre dans une situation où il pourrait disputer une ceinture intérim. Et quand il a eu l'opportunité de le faire contre Gaethje, bah, soyons honnêtes, il a fait n'importe quoi. Parce qu'il y avait un chemin de victoire pour lui. Il y avait un chemin qui était clair. Gaethje, très, 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 comment dirais-je, sujet à la soumission. Tu l'amènes au sol, en règle générale, si tu as un bon jiu-jitsu, ça passe. On le sait, il se fait étrangler. Il n'a jamais voulu faire ça, il a voulu le mettre KO. Il y a eu beaucoup d'arrogance, beaucoup d'ego. Et je pense qu'il s'en mord les doigts aujourd'hui. Donc moi, ma question, c'est est-ce que Pimblett, il a compris ça? Est-ce que derrière, il va accepter de faire des combats un peu plus stratégiques, un peu plus, tu vois, tourner sur la tactique, tout en gardant son identité, parce que c'est un combattant agressif, physiquement très fort. Il cut je sais pas combien de kilos pour arriver à 70 kilos, il est énorme. C'est un peu là où réside mon problème, si tu veux. C'est pas que je l'aime pas, Pimblett, au contraire, c'est un combattant que l'UFC a besoin et la KT a besoin de mecs comme lui. C'est juste que maintenant, voilà, ce qu'on avait un petit peu prédit l'année dernière, ça va arriver. Il y a BSD qui arrive, il y a d'autres gars qui arrivent. On va voir, est-ce que ces mecs-là aussi sont peut-être pas aussi bons que toi, voire meilleurs. Bon, on aura une première réponse là.
Est-ce que, question un peu triviale, Baba, mais est-ce que BSD peut tabasser Paddy Pimblett sur ce combat?
Franchement, moi je pense que oui. On va peut-être dire que je suis fou, hein, mais il y a un enregistrement, donc comme ça on me le ressortira. Mais moi je pense sincèrement qu'il peut lui rouler dessus. Ouais. Et c'est pas juste histoire de chauvinisme ou quoi, ou qu'est-ce? Non, c'est pas la question. C'est, je pense qu'avec les qualités de l'un et de l'autre, Benoît, physiquement, aujourd'hui, est-ce que je trouve plus fort qu'un Gaethje? Oui, je trouve plus fort physiquement, athlétiquement meilleur, beaucoup plus proche de son prime, en plus, plus jeune. Et là, Pimblett, il a galéré physiquement contre Gaethje, tu vois. Il a vraiment galéré.
Tu penses que la prépa physique peut faire une grosse différence, sachant que Benoît, en toute conscience, avec son staff, il a refusé de faire la Maison Blanche qui était un mois avant. C'était pour être arrivé de manière plus qu'optimale. À son échéance suivante.
Ouais.
Donc la prépa physique peut aussi faire une grosse différence, parce que Benoît, il va arriver affûté comme jamais.
C'est ce qu'il va avoir besoin. Il le sait. Il le sait que quand il fait une bonne prépa, Benoît, c'est très 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 difficile de lui résister physiquement. Là, on le sait maintenant. On a beaucoup de data. Voilà. Quand il est prêt, quand il est affûté, bah, c'est dur. Physiquement, c'est dur pour n'importe quel combattant de cette catégorie de poids. Ça va pas être facile. Et je pense que Benoît proche de 100%. Ça va être important pour battre Pimblett, parce que Pimblett, il y a une dimension physique aussi qui est importante, et tu peux pas te permettre d'arriver en étant léger, en étant pas bien préparé ou en étant vraiment blessé, tu vois.
Ouais. Voilà pour ce combat, je regardais encore un petit peu juste les stats et les données de Paddy Pimblett. Je me disais, tu sais, avant son dernier combat, je me disais quand même il avait pas mal d'antériorité à l'UFC, il avait jamais fait main event, ouais. Mais donc c'est son premier main event à Paddy Pimblett, c'était lors de son combat contre Justin Gaethje. Ça prouve aussi que sur beaucoup de ses, quasiment tous ses derniers combats, hein, depuis l'UFC 282, à chaque fois qu'il combat, il est en carte, sur des numérotés. Ouais. Donc c'est aussi la volonté de le mettre sur des très grosses cartes pour lui offrir une grosse exposition. Ouais. Là où avant, il combattait sur des Fight Night souvent à Londres. Et voilà. Et depuis, il est sur des numérotés. Et ça va se prolonger si ce combat est officialisé. Ça le sera certainement dans les jours qui viennent contre Benoît Saint-Denis. On a fait le tour sur ce combat-là.
Ouais. Juste dommage que ce soit pas 5 rounds du coup.
Ouais.
Parce qu'a priori, ça sera pas un main event.
À qui ça peut profiter ça d'après toi? Parce que le 5 rounds, si Benoît arrive bien préparé, justement, on se dit que ça pourrait lui profiter. Mais bon, Paddy, il a fait un long combat contre Justin Gaethje. Voilà. Il a prouvé qu'il pouvait tenir la distance aussi.
Oui, il peut tenir. Mais Benoît, c'est pas un combattant qui vient pour faire 5 rounds de toute façon.
Et puis après, sa prépa physique à Paddy, est-ce que voilà, il a 31 ans, il fait beaucoup de yo-yo, donc son corps il prend cher hein, à chaque cutting, à chaque camp, il prend très cher. Il va pouvoir le faire encore 2-3 ans peut-être, et après ça va commencer à être
gros
dur.
Gros max. Moi, ouais. À sa place, je m'éterniserais pas en lightweight parce que clairement, surtout vu ce qu'il a pris contre Gaethje encore, je pense qu'il a diminué un petit peu sa résistance physique.
Ouais, donc il a encore 3-4 prépas où il peut aller taper dans le dur comme ça, et derrière ça va être très compliqué.
Surtout l'hygiène de vie qu'il a, franchement, c'est compliqué. Ouais.
Ouais. C'est pas viable, on rappellera tout le temps, c'est Herbie qui a raconté cette histoire quand il était à Londres ou en Angleterre, à Liverpool,
c'était à
Liverpool chez lui, et où il rentre dans un bar, un truc où il y avait des concours de hot dog, je crois. Ouais. Et c'était pas du Pimblett
de poulet, je sais plus ce que c'est qu'il a mangé.
C'était pas du Pimblett qui avait le record de ce truc, donc ça prouve. Et c'est un truc qui est pas affiché, c'est un truc un peu en loose day. Et au final, c'est
même pas comment je le prendrais si mon combattant il avait le record de manger des pilons de poulet dans un resto. Tu vois,
Tony Ferguson, ça a dû le rendre fou. T'imagines, le mec il m'a battu, c'est pas beau. Bon, on attend l'officialisation en tout cas de l'UFC pour ce Paddy Pimblett contre Benoît Saint-Denis potentiellement sur l'International Fight Week de Las Vegas. Au début du mois de juillet. L'autre actualité qui est tombée pendant que tu étais en vacances, Baba, c'était lors d'un KSW, l'officialisation du fait que Saladin Parnasse ne combattra plus dans l'organisation polonaise. Ouais. C'est terminé. On savait depuis quelques semaines qu'il combattrait mi-mai sur la carte MVP, donc la carte de Jake Paul avec Francis Ngannou, Ronda Rousey et consorts. Et donc Saladin Parnasse, un peu pour la caution sportive aussi, pour ajouter de la crédibilité sportive, avait été ajouté à cette carte. Moi, je me demandais, tu sais, quand c'est tombé, j'avoue, je me disais, le KSW a dû le laisser faire ce petit pas de côté pour le sécuriser, pour refaire 2-3 combats, parce que ça va donner une grosse lumière au KSW. Exactement. Un combattant du KSW qui va combattre chez MVP, et finalement c'est pas du tout ça, parce qu'il a été libéré de ses obligations au KSW, donc maintenant c'est un combattant libre. Ouais. À l'heure actuelle, on va attendre de voir ce que ça donne. C'est une officialisation quand même qui donne pas mal de piment à ce qui va se passer pour la suite de carrière de Salah, et on attend de voir ce qui va se passer. Les options, tu vois lesquelles, Baba? Toi, il y a l'UFC Paris qui pourrait arriver en septembre, ce serait sympa de le voir à l'UFC Paris en septembre. MVP, s'ils lui disent, écoute, on va continuer à faire des cartes comme ça, on te donne des bons billets pour que tu combattes sur ces cartes-là, avec une grosse exposition contre des adversaires qui potentiellement sont un peu moins dangereux que certains que tu affronterais à l'UFC, ça peut être intéressant aussi. Il y a plusieurs options, plusieurs belles options qui s'ouvrent pour ça là.
Il y a plein d'options, c'est super cool. Je tiens à dire, la première chose en préambule, c'est que, à mon sens, il n'y a pas d'autre lecture que c'est trop bien qu'un combattant ait son destin entre les mains dans ce business où c'est quasiment impossible. C'est impossible, ça n'existe pas. Tu vois, il y a Francis aujourd'hui qui l'a. Ronda qui n'a pas combattu depuis 110 ans et tout, bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais il y a très très peu de combattants qui arrivent à avoir leur destin entre les mains et contrôler leur carrière comme ça, donc ça c'est super cool. L'autre chose que je vais dire en préambule, comme ça ce sera dit, évidemment que moi aussi je veux le voir à l'UFC contre les meilleurs, je comprends tous les fans qui voudraient le voir à l'UFC, mais étant dans le milieu, étant issu de ce milieu-là, je comprends parfaitement qu'on garde toutes les options ouvertes, et s'il n'y va pas, j'aurais pas de rancune, j'aurais pas de... voilà, parce qu'il aura fait le meilleur choix possible pour lui. Et j'ai déjà dit, je vous renvoie au versus que j'ai fait avec lui. C'est pas facile la vie de combattant. Donc voilà, vous pourrez dire ce que vous voulez derrière. Plombier, pas plombier, je sais pas quoi, qu'il a peur. Ouais, bon. Ce sera pas des arguments entendables pour moi. Et maintenant, votre frustration, je l'entendrai toujours. Parce que moi aussi, j'aurais une petite part de frustration.
Ouais.
Ça, il n'y a pas
faut,
de problème.
Faut juste pas que la frustration se transforme en.
Faut pas
en,
après, voilà.
En haine. Enfin,
aller dans le manque de respect, dans le truc,
etc.
C'est un combattant, il a peur, il n'a pas peur. C'est très facile hein, d'aller dans sa salle à Aubervilliers, de voir comme. Je ne vous dis pas d'aller tourner avec lui, je vous dis d'encaisser une séance d'entraînement avec lui.
Moi, j'y vais pas. Abonne-toi à son Insta, tu sais déjà.
Ouais, voilà, tu vois ce que moi, quand
ça,
je vois,
ça suffit. Hein.
La dernière chose que j'ai envie de faire là tout de suite, c'est d'aller m'entraîner avec eux.
Ah ouais. Parce qu'entre les séances de piste où il met 200 mètres par tour de piste à tous les gars et. Et les séances de sac où on voit une vitesse, il suffit de fermer les yeux pour avoir le son ouais. déjà. Tu sais bien ce que c'est, Baba, évidemment, mais bon, du cuir des gants sur le cuir du sac, le son fait peur. Et puis là, le rythme, enfin, bref,
c'est
il suffit
fou,
de s'abonner
machine,
à son
voilà,
Insta pour savoir ce que c'est.
On sait maintenant qu'une fois tout ça s'est évacué, ouais, c'est clair qu'il y a des bonnes options. L'UFC, c'est la meilleure option sportivement en termes de progression sportive, de le fait d'affronter les meilleurs, etc. L'UFC Paris, ce serait un événement fou avec Parrain, si t'imagines le truc, quoi, tu vois. Donc, clairement, dans ma tête, c'est mon option numéro 1, celle qui me ferait le plus kiffer, ce serait celle-là, sans aucun doute. Et j'espère en plus avec un combattant du top 15 direct, parce que voilà, tu vois, c'est Saladin Parnasse. Et tout le monde a compris que c'est un combattant qui est de ce niveau-là, donc on kifferait. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer la capacité déjà du PFL à pouvoir proposer une belle offre financière. Moi, je pense qu'ils ont les reins solides pour le faire. Ils viennent de se séparer de Francis et d'un énorme salaire. Donc, je pense qu'ils ont de quoi investir. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas les compter, en tout cas, en dehors de l'équation. Ensuite, il y a MVP. MVP, là où ça va être intéressant, Charles, ça va être sur plusieurs niveaux. La première, c'est que c'est Netflix. Netflix, c'est plus de 300 millions d'abonnés. Donc là, tu combats dans une exposition qui est tout autre.
Et comme on le disait ici aussi, Netflix, ça reste ad vitam aeternam sur
c'est
la plateforme.
Tout le temps. Tout le
donc
temps, tout
ta
temps,
possibilité, il voilà. y a aussi une consommation dans le temps qui est bien différente d'un... Il y a l'UFC Fight Pass,
ouais,
quand t'as l'UFC, etc. Mais c'est pas pareil, les UFC, il y en a toutes les semaines, c'est pas les mêmes consommations.
On va
c'est...
dans le hall, là, on fait ouais. descendre tout le monde, on demande qui n'a pas d'abonnement Netflix, il y a très peu
c'est
de gens qui vont
un
se
avant.
Lever. Tu vois,
ouais,
la plupart
clair.
Des gens ont un abonnement Netflix, donc peuvent voir par là.
Et maintenant, c'est, excuse-moi, mais c'est un peu rentré, là, il y a Fury qui a fait son combat l'autre jour.
Ouais.
Y a des, c'est, ça y est, c'est un petit peu rentré dans les mœurs que Netflix puisse proposer des contenus comme ça.
Et ils font des trucs, à la saison 2 là, de Bienvenue chez les Fury qui est sortie, il y a d'autres trucs sur Jake Paul qui vont sortir. Enfin bref, il y a des documentaires qui arrivent et tout qui vont continuer à supporter
bah,
la boxe.
Et il y a une série qui a été tournée avec Cyril Gane, avec Benoît Saint-Denis, il y a la Cage saison 2 qui va arriver.
Ouais.
Donc il y a tout cet écosystème sport de combat qui est très très présent aussi.
Il y a du contenu. MVB promotion, donc Jake Paul, faut pas oublier qu'aussi de base, c'est une promotion de boxe. La boxe, ça reste le sport numéro 1 pour ça là dans sa tête, ça reste son rêve de gosse, c'est celui qu'il veut faire. Donc en parlant pour Parnasse, et en plus il a dit lui que son prochain combat après celui-ci de mai, a priori sera un combat de boxe. Il veut faire de la boxe avant de s'engager chez quelqu'un. Ce qui signifie a priori que l'UFC Paris, ça me paraît compliqué. Si vraiment il se tient à ça en tout cas. Après c'est Parnasse, il est tout à fait capable de faire un combat en anglaise dans l'été et de se préparer pour un combat en MMA. Personnellement, je dirais si tu choisis de faire de l'anglaise, fais pas l'UFC Paris et puis vise une entrée pour l'UFC un peu plus tard. Mais bon, ça, c'est eux qui choisiront. Là où ça va être intéressant aussi pour Salah, c'est qu'il n'est pas tout seul. C'est qu'il a un manager depuis toujours qui s'appelle Hatch, Stéphane Chauffournier. Et je crois que l'option MVP aussi, elle serait intéressante pour Hatch et pour son organe, 100% fight, parce qu'il veut réorganiser en anglaise. MVP a déjà collaboré avec d'autres, dans d'autres pays, avec d'autres promotions pour pouvoir faire des galas dans d'autres pays. Donc c'est pas impossible aussi que dans ce deal-là, ce soit inclus d'organiser avec MVP Promotion à Paris par exemple, et d'avoir un Salah qui combat en anglaise, puis en MMA, et puis tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une option qui sur le papier peut être alléchante. Maintenant là, encore une fois Charles, moi je spécule. Hein. J'ai pas d'informations.
Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais là, on spécule complet, on discute. Ouais. Et en plus, c'est en discutant qu'il y a des idées qui.
Ouais.
Mais tu crois pour ça là. D'ailleurs, pareil, hein, t'as lancé l'invitation tout à l'heure à Guillaume Pelletier, mais si Hatch veut s'exprimer, ou ça là, évidemment, ils savent
temps,
que la porte est ouverte. En plus, ils sont pas loin.
Bah oui,
on sait qu'ils sont à Paris, donc ils sont à côté. Mais est-ce que tu crois que maintenant. Qu'est-ce qu'il va aller chercher, ça, là, dans sa carrière ? Est-ce qu'il va continuer à assurer son avenir financièrement ? Ou est-ce que, cette fois-ci, il se dit « Bon, on m'a beaucoup critiqué pour aller prendre des Polonais un peu moins forts que ce que j'affronterai à l'UFC, de pas travailler ma legacy sportive ?» Qu'est-ce qu'il va chercher, maintenant ? Continuer à assurer son destin financier ou aller chercher la legacy sportive ?
Si je me tiens à ce que dit Salah au micro de notre collègue Florent Moussi à Hexagone, c'était à Hexagone je crois, à Paris, il a dit celui qui me donnera le plus, je crois qu'il a dit ça, hein. J'ai pas envie de lui mettre les mauvais propos dans la bouche, mais je crois qu'il a dit celui qui je combat pour, enfin je combat, je suis un prize fighter, celui qui m'offrira le plus j'irai. Maintenant, ceci étant, quand je lui avais parlé, moi, pendant le versus, tu sentais qu'il avait cette volonté d'aller se confronter au meilleur. Il disait, ok, c'est bon, maintenant, je vais aller les voir, je vais leur montrer qui je suis. Et aussi, je vais aller montrer à tout le monde que voilà, ça valait le coup d'attendre et que et je vais aller à l'UFC. Mais l'option MVP, encore une fois, elle n'existait pas à ce moment-là. Elle n'existait pas. Ouais. Avec MVP, il y a peut-être potentiellement l'opportunité de faire quasiment les deux. Tu peux signer un bon contrat. Et puis, au fur et à mesure que des combattants à haut profil en MMA, que ce soit PFL ou à l'UFC et tout, arrivent en fin de contrat, bah, ils auront cette nouvelle option de pouvoir s'engager avec MVP. Plutôt que de peut-être re-signer avec l'UFC. Et là, ça peut attirer n'importe qui de l'UFC. N'importe qui de l'UFC pourrait signer avec MVP parce que l'argent va être là et Netflix va être là. Et là, tu te dis, ah, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'opportunité en dehors de l'UFC, c'était PFL. Et peut-être que beaucoup de combattants se disaient, PFL, ce sera en fin de carrière. J'ai pas envie d'y aller tout de suite. Tu vois.
Ah ouais.
Là, MVP, s'il décide de continuer dans le MMA, c'est différent. Donc, pour répondre à ta question, c'est dur à dire. Moi, je pense que, comme je l'ai écrit dans un édito la semaine dernière, je pense que ça, là, il va peut-être redéfinir les codes de la gestion de carrière en MMA. Ça peut être un des premiers gars avec Francis à le faire. Francis, il est en train de le faire, à mon sens. On n'en fait pas assez. On ne fait pas assez de cas là-dessus. Mais pour moi, il réécrit les règles. Si tu arrives au niveau de notoriété de Francis, tu peux faire différent, en fait. Tu peux tenir tête à l'UFC, tu peux faire différemment. Et même au PFL, parce qu'au final, regarde, il a fait un combat.
Ouais, ouais. Mais il réécrit les règles, mais c'est très. Ça reste du cas très particulier. Non
c'est, pour l'instant, c'est
parce
particulier.
Que tu pourras, ouais, voilà. À quel point ça aura de la résonance dans le futur pour des mecs qui sont pas connus, moins connus, ouais, milieu ça. De carrière, tu vois.
Faudra voir.
Parce qu'en Francis, il y en a qu'un, quoi.
Faudra voir. Mais ça commence toujours quelque part, entre guillemets.
Ouais, ouais.
Le Ali Act, il est né quelque part. Tu vois, il est né parce que Mohamed Ali, il a décidé de tenir tête à tout le monde, il a fait quelque chose. Et ensuite, et là, on va me dire, Mohamed Ali, c'est quelqu'un d'autre, certes, mais au moment où Ali tient tête à tout le monde, il est juste un champion du monde poids lourd. Dans la meilleure époque des poids lourds de l'histoire. Donc t'inquiète pas qu'il y avait d'autres mecs aussi qui avaient de la notoriété. Lui, il a choisi de faire différemment. Donc il y a toujours un point de départ, entre guillemets, et peut-être que ça peut être un point de bascule. C'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. En tout cas, encore une fois, j'ai pas envie de le blâmer s'il fait pas le choix de l'UFC. Moi, c'est mon choix perso. Je kifferais le voir là-bas. Parce que je suis convaincu qu'il peut être champion. Moi, j'en ai la conviction profonde. Tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je pense qu'il a ce niveau-là. Ceci étant dit, il y a d'autres opportunités et il gère sa carrière comme il entend. Donc c'est dur de réfléchir pour lui. Donc ta question, c'est pas facile d'y répondre. Moi, je crois qu'il a encore envie quand même de montrer aux gens qu'il est de ce niveau-là. Tu vois, je pense qu'il a quand même envie. Donc si je devais te répondre moi en spéculant, je dirais que pour l'instant, dans sa tête, ce serait toujours l'UFC. Mais on verra.
Il lui reste quoi ? Il a 28 ans, je crois, ça là ?
Ouais, je crois que ça.
Il lui reste 2-3 ans. Disons que s'il n'est pas à l'UFC à 31 ans, là, ça commencera à être compliqué. Il peut peut-être faire... Mais bon, pareil, s'il s'éloigne un peu des radars UFC, etc., ça peut être... En fait, qu'est-ce que va devenir MVP ? Ce sera quoi aussi, là, dans quelques années ? Est-ce que dans 15 ans, les mecs qui auront fait les premières cartes MVP, on se dira, comme les mecs qui ont fait les premières cartes UFC, ouais. Tu sais, on le regardera avec un regard en disant « Ah, tu te souviens, cette époque, il y avait ci, il y avait ça, il y avait Francis, il y avait Ronda sur la même carte. Aujourd'hui, il y a les ceintures MVP, il y a les machins. » Comment on verra tout ça dans 15 ans, d'après
c'est ça.
Toi c'est ça aussi la donnée qu'on n'a pas.
Ça se trouve, on est à l'aube de quelque chose d'historique. Ça se trouve pas. Ça se trouve, c'est pas du tout pérenne. Et ils vont dire « Le MMA, c'est de la merde, on n'y retourne pas. » Tu vois.
Possible.
En tout cas, cette société, en très peu d'années d'existence... C'est devenu un élément important de la promotion boxe, alors que personne n'y croyait de base. Hein. À la base, c'est du YouTube boxing, hein. C'est comme ça de base. Sauf qu'aujourd'hui, il a plus grosse écurie féminine, il n'y a même pas photo de toute façon. En termes de boxe féminine, il a tout le monde, ça c'est clair. Et en boxe masculine, ça commence à devenir vraiment intéressant ce qu'il est en train de faire. Donc, force est de constater, moi j'aime pas tout le truc Jack Paul dans le ring, ne m'intéresse pas du tout, vu les adversaires qu'il affronte. Je ne suis pas du tout intéressé par ce qu'il fait. Par contre, en dehors, la partie businessman de Jake Paul, je suis forcé de reconnaître, ça c'est fort. Ça c'est très fort. Et ça m'incite à me dire que lui et Nakis Abidarian, qui a travaillé à l'UFC, hein, faut pas l'oublier, c'est un mec qui a travaillé pour l'UFC pendant un temps, qui a fini par s'embrouiller avec Dana White fortement et durement avant de partir s'associer avec Jake Paul et de fonder sa promotion. Donc c'est quelqu'un qui connaît le business du MMA, il sait quoi faire, et il connaît les mecs, il a les contacts, ils sont capables de créer une organisation de MMA pérenne. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de créer un concurrent pérenne à l'UFC ? Ouais. D'autres ont essayé, personne n'a réussi.
Est-ce que tu crois que Jake Paul, le fait de combattre lui-même, ça lui a fait pointer le fait que la légitimité sportive soit aussi importante dans les organisations qu'il est en train de faire ? Parce que tu vois, il y a lui qui fait aussi, qui connaît aussi bien le catch, qui connaît des choses comme ça. Est-ce que tu crois que ça lui a permis de se rendre compte de certains trucs et que c'est un vrai plus dans sa manière déjà de s'entourer, tu l'as dit, ancien ouais. UFC, etc. Et dans sa manière lui-même d'appréhender les organisations qui montent, qu'il faut du sportif pour que tout ça marche, parce que s'il n'y a que de la paillette, s'il n'y a que de la fame, ça ne marchera pas comme il l'entend.
Bah, je pense qu'il a dû le comprendre à travers son expérience à lui, parce qu'il voit bien. Il voit bien qu'il monte les combats contre les anciens combattants de MMA, contre Mike Tyson, enfin voilà. Et à chaque fois, il est obligé de répondre aux mêmes critiques. À chaque fois, et c'est des critiques légitimes. Hein. Tout le monde lui dit « t'es bien sympa, mais t'affrontes des mecs qui sortent de leur retraite, qui sortent du canapé, qui ont 45 ans, qui ont presque 60 ans. Ouais, en fait, ce que tu fais, c'est bien gentil, mais sportivement, ça vaut rien. » Donc lui, il sait que sportivement, il va être obligé de proposer quelque chose de différent en tant que promoteur, en tant que promotion. Et ça, pour l'anglaise...
Ouais, sur la globalité de la promotion, parce que... Ouais. Enfin, tu vois, là par exemple, ses combats à lui, ce sera toujours un événement, mais si, s'il prenait un combattant beaucoup plus fort que lui, mais pas connu du tout, en fait, les gens regarderaient moins, et du coup, il faut trouver la bonne formule. La bonne formule, il est en train de la construire, et peut-être qu'elle réside dans la carte qu'il est en train de faire en MMA.
Moi, je pense que vraiment, c'est ça, il faut avoir deux lectures. La première chose, c'est que Jake Paul, là, maintenant, il est dans une situation où tu vas le regarder pour le voir se faire défoncer. Donc quand il a fait le match-up contre Joshua, tout le monde a dit « t'es complètement taré, mais on va te regarder parce qu'on a envie de te voir te faire descendre ». Il s'est fait descendre, et donc tout le monde était content, c'est parti sur internet et tout. Il n'empêche qu'il a fait le combat. Moi je trouve que c'est complètement timbré de l'avoir fait, mais respect. Au moins tu peux donner un peu de respect. Il en sort avec les poches un petit peu gonflées de une centaine de millions, je crois, quelque chose comme ça. Donc le risque en vaut la chandelle. Tu me donnes 10 fois moins, j'y vais sans problème. Sans autre
100 fois moins.
Ça fait quoi 100 fois moins?
Ça fait un million.
Calcul mental. Ouais, j'y vais, un million, j'y vais. Franchement,
c'est bon,
j'y vais.
Bah oui, c'est pour ça. J'ai dit 10 fois moins, mais j'attendais le.
Franchement, 100 fois moins, j'y vais sans aucun. Juste paie-moi le billet d'avion en première classe. Respecte-moi, mais j'y vais quand même. Et j'y vais tout de suite. Hein. Dans l'état de forme actuel, j'ai pas de genoux. Ouais, j'ai pas de... Mais c'est pas.
En retour d'Italie.
Voilà, juste me pète pas les dents.
De vacances.
Mais je pense qu'il est arrivé à un moment un peu. Tu te prends pour se regarder à la Floyd où. Il peut faire un combat contre un mec qui est moins connu, mais tout le monde regarde pour qu'il se fasse défoncer. Tu vois, donc
oui.
Ça peut le faire. Maintenant, en tant que promotion MVP, il fait des match-up équilibrés et intéressants. C'est là où ça vaut le coup. Surtout chez les femmes, où il a fait les combats que tout le monde attendait. Chez
et là, il a pris
hommes
ça là.
Donc là, tu prends ça là. Tu as mis Lorenz Larkin notamment. Tu as pris des Junior Dos Santos, même s'il est à la retraite. Tu as pris des mecs que tu sais que ça va faire un combat sportif intéressant. Tu vois, c'est pas un freak show à 100% le truc. Donc je pense qu'il connaît cette part du business là, il la connaît bien, il le fait bien. On attend de voir. On attend de voir si ce sera pérenne.
C'est juste une carte, et après on terminera là-dessus, mais c'est juste une carte. Si tu la mets il y a 10 ans à l'UFC, tu dis waouh, quelle folie.
Ouais,
t'as Junior Dos Santos, t'as Ronda Rousey,
Nick Diaz,
mais tu mets ça à l'UFC il y a 10 ans.
Tout le monde est content.
Tout le monde est comme des fous.
Tout le monde est super
Même si tu mets un Salah il y a 10 ans qui est en début de prélim, c'est un mec qui est bon déjà. Cette carte-là, exactement il y a 10 ans, elle est folle.
Tout le monde kiffe, tout le monde te dit t'as du prospect, t'as de la star, t'as du combattant établi, t'as tout ce qu'il faut. Donc vraiment, la carte elle est cohérente.
Mais il y a 10 ans.
Ça me surprend. Maintenant, c'est 10 ans plus tard. Mais pour une carte de 10 ans plus tard. C'est plutôt cohérent.
Ouais. Intéressant, en tout cas, on en réfère aussi à l'épisode de Baba Versus que tu as évoqué. D'ailleurs, le prochain qui sort le 30 avril, je crois.
Il sort jeudi.
Jeudi, cette semaine, avec Fernand Lopez.
Ouais.
Gros entretien avec Fernand Lopez qui, comme à son habitude, dit beaucoup de choses hyper intéressantes.
Écoutez, ce sera intéressant. Rendez-vous jeudi sur RMC Sport 1 à 21h et puis vendredi sur YouTube. Il y a 1h30. Et encore, on a un petit peu coupé dedans parce qu'on avait fait un peu plus que ça. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira parce que c'était une belle conversation. C'était cool.
Ouais, c'est Fernand Lopez dans Baba Versus cette semaine sur RMC Sport et sur YouTube RMC Sport Combat. Évidemment, il y aura plein d'extraits qui seront découpés, qui seront distillés sur les réseaux d'RMC Sport Combat durant toute la semaine. On a fait le tour sur Benoît Saint-Denis contre Paddy Pimblett. Je crois qu'on a fait le tour aussi sur Saladin Parnasse qui ne sera plus au KSW. Ouais. On a moins évoqué ce côté-là, KSW, l'héritage, etc. Mais ce sera peut-être l'occasion de le faire avec lui, avec Hatch.
J'aimerais bien qu'on le fasse
quand ils viennent.
Ce serait sympa.
Ouais. Exactement, parce que là, il y a beaucoup à dire aussi sur ce qu'il a laissé comme trace en Europe et au KSW. Et Baba, on va terminer avec le preview de la Fight Night qui arrive ce week-end avec Jack De La Maddalena contre Carlos Prates. C'est à Perth en Australie, c'est un événement qui est du coup fait plutôt pour Jack De La Maddalena.
Ouais.
Il sort de son combat pour la ceinture, sa première défense ratée du coup contre Islam Makhachev. On parlait de manque de respect tout à l'heure, c'est un peu dévalorisé Jack De La Maddalena de le mettre en Fight Night, ou alors est-ce que justement lui faire une Fight Night pour lui, chez lui, c'est plutôt lui offrir du respect.
Ouais, non, moi je pense que c'est bien. Je pense que au contraire, ouais, je pense qu'il faut le voir comme une marque de respect. De... Il n'y a pas beaucoup de combattants hein, qui peuvent combattre à domicile. Max Holloway, ça fait 15 ans qu'il réclame. Il a toujours pas eu d'event
ouais,
chez
Max
lui.
Holloway, ah, ouais.
Donc c'est toujours bien. C'est toujours bien pour un combattant. Combattant, tu dirais que ce sera toujours heureux d'être main event dans son pays et devant son public. Donc non, non seulement c'est bien pour lui de le faire, et en plus ils ont mis un adversaire de qualité qui devrait faire en sorte que le combat soit spectaculaire. Donc je crois qu'ils l'ont mis dans de très bonnes conditions, JDM, pour pouvoir faire une belle presta, s'il gagne en tout cas, ou s'il perd, de se dire que c'est un combat mémorable. Donc tu vois, je pense que c'est bien pour lui.
Ouais, Carlos Prates, si on met de côté sa défaite contre Gary, c'est vrai que ses victoires sont quand même belles. Charles Radke, ouais. Jing Liang, Neil Magny, Goff Neal, Leon Edwards.
Ouais.
Là, il y a quand même, tu vois, on parlait tout à l'heure de ce qu'a fait Paddy Pimblett. Sur les noms, par exemple, Carlos Prates, qu'il a fait,
en mettant KO la plupart.
Ouais. Bah, il a, parce que c'est 18 KO quand même sur 23 ouais. victoires en MMA, c'est très fort.
C'est un vrai puncher, et il a mis KO ces gars-là en montant, il a enchaîné 4 KO la même année, je me souviens, donc c'est un peu... on fait peu de cas du fait que les Fighting Nerds, la notoriété, à mon sens, elle vient principalement de lui, beaucoup plus en tout cas des autres membres, parce que je trouve que c'est le membre le plus fort du quatuor originel, on va dire. Et paradoxalement, c'est peut-être le moins fighting nerd, entre guillemets, parce que c'est un combattant létal. Il vient pour te mettre KO. Et il a un gros background en Muay Thai. Donc voilà, on va dire qu'il n'est pas né au fighting nerd. C'est un combattant qui est venu avec ses qualités et qui est bien entouré pour pouvoir continuer à progresser.
Ouais.
Combattant très dangereux. Et vraiment, deux combattants dangereux face à face. Deux strikers avec deux styles différents. Un mec qui est plus dans le volume, Della Maddalena. Belle anglaise, volume, angle, beaucoup de frappes. Et Prates, sniper, qui veut juste descendre.
Ouais, et dans sa carrière, Carlos Prates, qui a 7 défaites quand même, mais il a une seule défaite à l'UFC, il a accumulé pas mal de défaites en début de carrière. Là, je vois jusqu'en 2019, en gros, il prend quand même 6 défaites. Et derrière, il n'y a plus qu'une seule défaite. Et c'est contre un client, puisque c'était contre Ian Garry. Cette fois-ci, c'était à la décision. Il ne s'est pas fait mettre KO ou soumis. Là où, pareil, avant, quand il perdait, c'était pas mal par KO ou par soumission, puisqu'il a pris 3 défaites par soumission et 2 défaites par KO. Et donc, au-delà de la défaite contre Garry, il y avait une seule défaite par décision. Donc c'est un combattant aussi qui à l'époque allait beaucoup à la guerre et pouvait se faire prendre à ce jeu-là, et finalement maintenant qui a gagné en maturité et qui est beaucoup plus crédible qu'avant. Jack Della Maddalena, tu penses qu'on va le revoir dans quelle forme alors? Parce que c'est vrai qu'il avait pris cette ceinture contre Belal Muhammad, c'était il y a quasiment un an, c'était du côté de Montréal. Tu penses quel Jack Della Maddalena on va retrouver sur ce fight?
Ouais, moi je pense que ce sera un Della Maddalena qui est toujours dangereux. C'est un mec qui sera toujours dangereux, toujours bien préparé, toujours sérieux et toujours dangereux. Qui va avec ses qualités, qui a besoin de montrer que c'était pas un champion usurpé. Il a vraiment besoin de ça, on va pas se mentir. Il y a plein de gens qui pensent que maintenant, vu qu'il s'est fait un petit peu nettoyer par un MMA et qu'il a battu Belal Muhammad, qui a fait un très mauvais combat, en tout cas un très mauvais combat stratégique, ça fait que le règne de Della Maddalena, il est un petit peu, voilà quoi, il va pas être remarquable, on va pas s'en rappeler, tu vois. Maintenant, lui, il a besoin de prouver des choses par rapport à ça. Donc je pense qu'il sera très prêt. Il va peut-être plus faire parler aussi sa lutte, parce qu'il a une bonne lutte. Il va peut-être plus faire parler son clinch, ces choses-là. Maintenant, dans le clinch, Prates, il est dangereux. Donc voilà, moi, c'est pas facile du tout à s'imaginer, à pronostiquer comme combat. Mais je m'attends toujours à ce que ce soit deux combattants près. Donc je m'attends à ce que Della Maddalena soit à son max, à 100%.
Ouais. Jack Della Maddalena, premier challenger encore à Islam Makhachev dans la catégorie des moins de 77 kilos. Carlos Prates, il est cinquième. C'est quoi la suite en fonction de belle victoire pour Jack? Qu'est-ce qu'il va aller chercher derrière? Tu crois qu'il lui redonne un title shot contre...
En tout cas, ça va être difficile.
C'est dur, hein, parce qu'il y a derrière, il y a Ian Garry. Il y a aussi Michael Morales qui fait très grosse impression. Est-ce qu'il redonne à Jack Della Maddalena contre Islam Makhachev? Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Ça, c'est un mec pas très vendeur, faut le dire. Jack Della Maddalena, ça vend pas. Non. Donc, est-ce qu'il remet ce combat-là? Si jamais il vient chercher un gros KO, il fait une belle guerre contre Prates?
Normalement, ça voudrait dire qu'il reste numéro 1, mais ce que me montre l'UFC actuellement, c'est que non. C'est qu'il lui faudra plus qu'une victoire.
Ouais, je pense
malheureusement
aussi,
pour lui.
Ouais, parce que mine de rien, il a perdu contre le champion et il y a des mecs qui sont là derrière et qui poussent.
Il a perdu contre un mec qui venait de la catégorie d'en dessous, il n'a pas existé. Donc ils vont lui dire non, t'es gentil, il faut au moins 2 victoires et on te redonne une chance.
Et de la même manière, même si Carlos Prates, il fait le combat de sa vie contre Della Maddalena, il est 5ème, ça m'étonnerait qu'il passe devant Morales, devant Gary pour aller.
Je suis moins catégorique que toi.
Ah ouais, tu crois?
C'est un fighting nerd.
C'est un nerd.
Ils ont un méga privilège.
Ils ont un méga privilège. Ils le feront pas passer Gary, Morales. ils ont je vois le privilège, mais ils ont quand même une grosse cote aussi, ces mecs-là, en ce moment. Ils sont, on parle beaucoup d'eux. Ça, qu'ils les fassent passer devant, je trouverais ça assez fou. Mais bon, après, on ne sait jamais.
Écoute, à suivre. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font ces derniers temps. Donc, personnellement, ça ne me surprendrait pas du tout.
Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est le main event de cette UFC Fight Night qui sera du côté de Perth en Australie. Il y a d'autres combats avec, bon, ils mettent les classiques, hein. Il y a Junior Tafa, il y a Tai Tuivasa aussi qui ouvrira la carte principale. Et puis, l'autre combat dont on va parler rapidement, c'est Benel Dariush contre Kylian Salkild.
Ouais.
Kylian Salkild, lui, veulent le faire monter.
Ah bah oui.
Et a raison, parce que c'est un mec hyper spectaculaire. Benel Dariush, lui, sa dernière défaite, son dernier combat, c'était contre Benoît Saint-Denis.
Ouais.
Donc il sort de ça. Donc là, il lui donne quand même tout de suite un gros mec. Enfin, tout de suite. Il a déjà prouvé qu'il pouvait aller prendre qu'il pouvait aller faire des gros combats. Mais Salkild, c'est l'occasion pour lui de montrer qu'il peut faire du très sale contre des très gros.
Là, c'est pour montrer qu'il est de ce niveau-là, entre guillemets, top 10 intermédiaire. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir rentrer, battre un mec qui est sur la sortie, clairement. Je pense que s'il prend un KO sur ce combat-là, Benil, il y a des chances qu'il se retire. En tout cas, j'espère, parce que ça va commencer à faire beaucoup. Donc ouais, là, on fait tout pour... C'est le match-up classique, hein, clairement, hein, du prospect qui monte, qui a de la hype derrière lui, face à un vétéran qui est en train de sortir et qui se fait pousser vers la sortie. Donc ouais, ça va être un bon combat pour Salkild. J'ai pas envie d'enterrer Dariush, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ses combats récents Salkild, c'est toujours pareil. Je reste sur cette histoire d'Abu Dhabi, là. Même si son dernier combat, il est encore plus impressionnant.
Raconte à nouveau l'histoire.
Non, franchement, le KO qu'il met sur Aiki contre Asparagt, alors que moi, je suis en train de me faire équiper et que je suis dodo, et que j'ai entendu un gros boom. Et que je vois un mec qui est par terre et je demande à tout le monde s'il est mort, quoi. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et l'image où on lui lève la main à Salkild et Akbar s'il est encore face contre terre, enfin c'est fou, quoi, tu vois, l'image est folle. Donc ça m'a impressionné, mais j'ai pas envie d'oublier que son combat de derrière, il est encore plus impressionnant parce qu'il montre qu'il a il a un vrai niveau au sol. Franchement, il lui a roulé dessus assez rapidement en plus, donc il sait tout faire. C'est un combattant qui sait tout faire, qui est dans la force de l'âge en plus, et ça va être un vrai problème. Lui, s'il arrive là, il bat Dariush, ça va être un problème pour tout le monde.
Ouais, Benel Dariush contre Kylian Salkild, et puis c'est un vrai personnage en plus, Kylian Salkild, avec sa tête, un peu le côté fermier, enfin voilà, c'est un perso aussi qui est marrant à voir et qui dénote un petit peu, donc je pense qu'il a tout dans le style, dans la personnalité et dans ce qu'il donne en dehors de la cage pour être monté, en tout cas, s'il accroche un nom comme celui-ci, parce que quand même, il y a Akparast et Mularki, c'est des mecs qu'on connaît, c'est pas des stars. Là, cette fois-ci, si tu prends Benel Dariush, qui est top 15 depuis un gros moment, serait un vrai update pour Kylian Salkild, et peut-être que ce serait aussi le marqueur peut-être d'une retraite pour Benel Dariush, et peut-être d'une sortie, s'il n'y a pas retraite, d'une sortie top 15, puisque peut-être là il y aurait rentrée pour Kylian Salkild, et peut-être qu'il ferait sortir Benel Dariush du top 15.
En tout cas, il arrivera en queue de top 15. Ce qui me ferait chier, là, le scénario qui me ferait chier, c'est que Dariush perde, et que tout le monde perde une place.
Ouais.
Et forcément, le numéro 15, il perdrait une place, et le numéro 15, c'est Fares.
Non, ça, ouais.
Bah écoute,
ça me ferait grandement chier, mais... Arrête.
On les connaît,
il est 12e,
les Benel Dariush.
Il est 12e, et puis derrière lui, les seuls qu'il y a derrière lui, c'est Michael Chandler, Manuel Torres et Fares Zia.
Mais
envisageable. C'est vrai que tu fais bien d'évoquer cette hypothèse-là. On regardera avec beaucoup, beaucoup d'attention le classement dès mardi prochain du côté de l'UFC. Merci Baba, je crois qu'on a fait le tour sur... l'actualité de l'UFC. T'es rentré de vacances, ça y est, on va pouvoir essayer de reprendre la régularité.
Il y a une très grosse actu sur les deux mois qui viennent, donc vous allez vous prendre beaucoup d'épisodes.
On va essayer d'en faire un maximum. Abonnez-vous YouTube, les plateformes de podcast, mettez-vous des alertes et évidemment continuez de nous soutenir autant que vous le pouvez. Ça donne toujours de la force. Merci Baba d'avoir été avec moi comme d'habitude pour ce RMC Fighter Club. Merci à Kevin et à Arthur qui étaient en régie aujourd'hui. À très vite dans le Fighter Club. Ciao.
RMC Fighters Club.